Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le Rwanda dirige les opérations militaires de l'AFC M23. C'est ce que révèle le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Ce rapport met en lumière l'implication directe et massive de l'armée rwandaise RDF dans les opérations militaires de l'AFC M23 contre la RDC. Le document rendu public hier mercredi évoque également les déploiements des milliers de militaires rwandais sur le sol congolais pour soutenir la rébellion dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. L'armée rwandaise a véritablement joué un rôle décisif dans l'Est de la RDC aux côtés du groupe armé de la rébellion du M23 dans l'offensive qui a conduit à la chute en janvier et février dernier des villes de Goma et de Bukavu, précise le rapport. Les opérations des RDF ont joué un rôle déterminant dans la conquête et l'occupation des nouveaux territoires et villes, soulignent les experts de l'ONU, précisant qu'ils se sont appuyés sur des photos et des vidéos authentiques prises notamment par drone et même par les témoignages et les renseignements. Quelle lecture faire de ces nouveaux rapports des experts de l'ONU sur la RDC? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous avons ici au studio Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement, décidé en sigle, parti membre de la coalition Lamouka. Il est également notable du Nord Kivu. Bonsoir honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Et aussi ici au studio toujours Willy Michiki Bouini, il est député national élu de Walikale au Nord Kivu, il est cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir honorable Willy Michiki Bouini.
Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs et aussi à mes co-débatteurs ici présents.
Et aussi Achille Kapanga, avocat, il est analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Bonsoir maître Achille Kapanga.
Merci beaucoup. C'est tous les auditeurs qui nous suivent pour l'instant, les collaborateurs également, mais pour ceux qui sont encore une fois donné l'occasion de partager ce qui est sur la table.
Merci une fois de plus et bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, un rapport accablant et des chiffres qui interpellent. Rendu public ce mercredi 2 juillet 2025, le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC met en évidence l'implication directe et massive du Rwanda dans les opérations militaires de l'AFC M23 contre la RDC. Le document évoque le déploiement des milliers de soldats rwandais sur le sol congolais pour soutenir la rébellion dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Martial Papi Mukeba vous en résume les grandes lignes.
Les rapports révèlent qu'environ 6000 soldats rwandais, dont des forces spéciales, ont été déployés entre janvier et mai 2025 au Nord et Sud Kivu pour soutenir l'AFC M23, notamment lors des offensives sur Goma et Bukavu. Après la prise de Goma, une partie est rentrée au Rwanda, l'autre est redéployée à Bukavu pour poursuivre des opérations discrètes. Parmi les responsables cités figurent James Kabarebe, ministre de la coopération régionale et ancien chef d'état-major, les généraux Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée rwandaise RDF, et le général Patrick Karuretwa, président de la haute cour militaire du Rwanda. Les RDF auraient établi un quartier général à Gisenyi, ville frontalière de Goma, avec pour objectif non pas la neutralisation des FDLR, mais la conquête des territoires. Ce contrôle a renforcé l'AFC M23 et permis au Rwanda d'accéder aux ressources minières, aux terres agricoles et d'accroître son influence politique en RDC. Les rapports évoque aussi un vaste recrutement par l'AFC M23, incluant d'anciens militaires des FRDC, combattants Wazalendo, ex-militaires rwandais et membres de la diaspora, enrôlés volontairement ou sous contrainte. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papi Mukeba. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, je commence avec vous. Vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement, SID en sigle, parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. Comment vous réagissez face à ces nouveaux rapports des experts des Nations Unies sur la RDC?
Deux sentiments. Le premier, c'est une reconnaissance par rapport à la qualité des données présentées dans ce rapport. Et ce rapport vient confirmer, étayer ce que la société civile, toutes les populations de Goma, de Rutshuru, de Kibumba, de Kalehe, de Bukavu, de Kamanyola, n'ont cessé de dire au sujet de la présence des troupes rwandaises, de la même manière que depuis avant-hier, ces populations continuent à déplorer le fait que par Kamanyola, on voit des colonnes de militaires rwandais qui entrent vers les hauts plateaux d'Uvira. Et donc, c'est un sentiment de gratitude vis-à-vis de ces experts des Nations Unies. Mais le deuxième sentiment, c'est un sentiment d'indignation. Parce que les rapports des experts des Nations Unies sont toujours restés lettres mortes. En 2008, en décembre, le groupe d'experts a publié un rapport du temps de la guerre du CNDP pour démontrer noir, bras et blanc que le CNDP était monté, armé par le Rwanda. Mais curieusement, dans l'entretemps, les officiers, les diplomates américains étaient en train de pousser la RDC à un accord entre la RDC et le Rwanda, l'accord de la fameuse opération Umojaweto. Tout en lisant les rapports des experts des Nations Unies, on fait fi de toutes les vérités étalées dans ces rapports et on pousse la RDC à la fameuse opération Umojaweto. Et l'on sait ce qui est arrivé. On a organisé une cérémonie à Goma, attestant que ces militaires entrés devaient retourner au Rwanda. Et en même temps, 7 jours après, à Rumangabo, il devait se faire la cérémonie de brassage accéléré des CNDP au CNDF et FARDC, sans que l'on ait la possibilité de faire le distinguo entre militaires rwandais entrés et militaires CNDP. C'est la même chose aujourd'hui. Le rapport est accablant et atteste que au moins 6000 éléments rwandais de forces spéciales sont entrés et en opération directe de janvier à mai. Mais on dit en même temps, pour minimiser le problème, on nous dit que d'autres forces seraient déjà rentrées et qu'il resterait simplement 1500 sur le territoire congolais. Il est possible que demain, on organise un scénario montrant que les 1500 rentrent, mais qui va attester? Quelle est la capacité du Congo d'attester si les 4500 sont effectivement rentrés? Entre-temps, l'accord de Washington du 27 et à Doha, on est en train de discuter de la question d'intégration, même si on a dit c'est au cas par cas, encore que les critères seront discutables, critères de loyauté, les gens de Doha vont dire, mais est-ce que ceux qui volent, détournent les fonds publics, les fonds destinés aux opérations sont aussi loyaux? Bref, autour de la discussion de la problématique de l'intégration, il n'est pas exclu que demain, de ces mêmes militaires rwandais, dont la présence est attestée par le rapport, nous trouvions ceux-là qui sont intégrés. Bref, en même temps que je salue ce rapport, je dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale qui ferme les yeux devant des faits d'agression avérée. Et au lieu de reconnaître l'agression, la résolution 2773 elle-même parle des mesures défensives du Rwanda, l'accord de Washington parle des mesures défensives, alors que, en vertu du chapitre 7, il devait être établi que le Rwanda a agressé, et au nom de cette qualification de fait, le Rwanda devait être sanctionné. On veut simplement nous amener, on peut nous contenter avec des sanctions individuelles contre Kabarebe ou contre quelques chefs d'état-major, alors que le rapport établit par exemple à ce point 18 que c'est Paul Kagame lui-même, une semaine avant la prise de Goma, qui a donné ordre d'envahir Goma et de prendre le contrôle de Bukavu. Pourquoi ne pas sanctionner le Rwanda et que tout le pays du monde se mobilise pour condamner l'agression de la manière la plus sévère possible?
Et qu'est-ce que ce rapport apporte de nouveau et qui n'était pas connu?
Alors, ce rapport apporte des preuves scientifiques. Il est vrai, la population de Kibumba, de Goma, de Nyiragongo, de Masisi témoignait de la présence des militaires rwandais. Mais le rapport se base sur des images satellitaires, sur des vidéos. C'est la documentation des faits.
Les rapports étaient allés plus loin jusqu'à interroger des officiels rwandais sur l'objectif. Ils vous disent par exemple que dans leur entretien avec des officiers rwandais, ces officiels disent que les objectifs de la guerre ont évolué, allant même jusqu'à envisager de créer une, ce qu'ils appellent une région autonome de la partie Est. Bref, l'originalité de ces rapports, c'est la documentation des faits, c'est la véracité des faits. Mais, comme je l'ai dit, à cause de l'implication aussi de beaucoup de membres du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans la chaîne d'agression autour de l'exploitation des minerais, eh bien, tout ce pays, tout en disant qu'ils sont partenaires de la RDC, ferme les yeux vis-à-vis de l'agression qui est si établie.
Ces rapports qui est publié environ une semaine, n'est-ce pas, après la signature de l'accord de paix entre la RDC et les Rwanda, pourrait avoir quelle retombée sur le plan diplomatique?
Il n'aura pas de retombée, cher Guy. Comme je le disais tantôt, le rapport de 2008 n'a pas eu de retombée. Le rapport de 2012, avant les pourparlers de Kampala, le rapport n'a pas eu de retombée. Celui-ci n'est pas le dernier. Le 27 décembre 2024, il y a eu un rapport des experts, le rapport a mis par coup. Ce qui est davantage révoltant. Alors que ce rapport était déjà connu jusqu'au mois de mai 2025, de la présence des militaires rwandais en masse sur les sols congolais depuis janvier, comment comprendre que l'accord de paix aille se focalise sur un concept d'opération du 31 octobre 2024, nous impose un schéma d'après lequel nous devons neutraliser les FTLR qui sont supposés être dans ces zones dont il est dit dans les rapports que c'est dans ces zones que l'armée rwandaise s'est déployée, et l'accord de Washington vient dire que la RTC, les FATC, doivent neutraliser les FTLR avant le désengagement de l'armée rwandaise dans les zones déjà occupées par l'armée rwandaise. Et la présence de l'armée rwandaise est établie. Comment les FARDC iront-elles neutraliser les FTLR dans ces zones sous contrôle de l'armée rwandaise? C'est là que je dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale.
Surtout que les opérations doivent se faire de façon simultanée.
De façon simultanée.
La traque
sur base de ces rapports
et le retrait des militaires rwandais.
Sur base de ces rapports, les conseils de sécurité des Nations Unies devaient rester dans la logique de la résolution 2673. Et ordonner d'abord que, à tout premier lieu, que l'armée rwandaise se retire de ces zones, qu'il y ait des engagements des forces rwandaises, et que par la suite, le trac des prétendus FDLR suive. Mais, pour montrer l'hypocrisie, on nous dit, dans ces zones où il est établi que l'armée rwandaise s'est déployée, jusqu'à ce jour, on nous dit que la RDC commence par la neutralisation des FDLR, avant que ces troupes rwandaises se retirent. Et donc, une fois de plus, la RDC est abandonnée à son triste sort, malgré ceux qui sont en train de jubiler que Washington nous a apporté le salut.
Merci.
Mais ce rapport vient attester une fois de plus que même l'administration Trump fonctionne sous le principe de l'hypocrisie diplomatique.
Merci, Willy Mishikibouini, député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la Nation. Quelle analyse vous faites de ces nouveaux rapports des experts des Nations Unies sur la RDC?
Bon, d'abord, le rapport est tombé à point nommé, c'est-à-dire au lendemain de la signature de l'accord de paix de Washington d'ici. C'est pour dire que il faudrait que cet accord puisse avoir d'autres annexes qui prendraient en compte les éléments qui ont été publiés par les experts des Nations Unies. Et je suis très content lorsque j'ai suivi ce matin les porte-parole du département d'État américain qui s'est approprié de ces rapports et il a dit clairement que ce sont des préoccupations qui doivent être prises en compte. Qu'est-ce que nous attendons? Lorsque le rapport établit clairement que la guerre à laquelle nous sommes aujourd'hui est soumise est une véritable guerre d'agression, ce n'est plus un secret de Poutine. on a critiqué le président Tshisekedi, on a dit ceci, aujourd'hui on donne raison par des experts indépendants des Nations Unies que le président Tshisekedi avait raison de dire qu'il n'a pas besoin de négocier avec des partenaires M23-RFC, il faut négocier avec Kagame, négocier avec les Rwandais. Aujourd'hui, il est clair, ce qui dirige la guerre au niveau de Kigali, je te cite, c'est pas moi, Fred Ngezi Kagorora, qui est très bien connu, Général Patrick Karuretwa, qui sont des véritables chefs de guerre. Et sur terrain, ils ont qui? Ils ont Makenga, ils ont Colonel Imani Ngezi. Je peux illustrer ça, pas plus tard qu'il y a deux semaines, mes maisons à Goma ont été visitées par le M23 sous la conduite du général, du colonel lui-même, qu'on appelle Jitu, le colonel Imani Zezé, lui-même en volant avec des cortèges.
Qui est des RDF.
Il est de M23. M23. Lui-même, il a pris sur ordre, paraît-il, de Kabila. Ils ont pris même des véhicules de ma mère. Une vieille femme de 83 ans, deux jeeps de ma mère, ils ont pris trois camions de ma mère, deux jeeps qui m'appartiennent, ils ont investi dans nos maisons, nos résidences, ma mère et moi-même. Donc pour dire qu'aujourd'hui, je vous parle de maintenant, ça se passe aujourd'hui.
Vous avez dit sur ordre de Kabila, pourquoi vous dites
il
ça?
Il paraît que c'est sur ordre de Kabila et de Kigali.
Vous avez des preuves.
Puisque moi j'ai dérangé.
Vous avez des éléments qui ont
été là. Des preuves, oui, c'est ce qu'ils ont dit. Puisque j'avais fait une émission qui a déboulonné Kabila, qui les a mis à nid. C'est pour dire qu'en réalité, c'est les Rwandais qui nous font la guerre. Et c'est comme ça que nous avons salué et fait rapport. Lorsqu'on parle là-bas de poursuite des enquêtes, nous attendons ces enquêtes-là. On nous parle des actes de violence, des exécutions sommaires, de violences exécutées sur des personnes vulnérables. Et nous attendons maintenant aujourd'hui que les conseils de sécurité, à travers le pays comme les États-Unis qui se sont appropriés de ces rapports-là, que les conseils de sécurité puissent agir. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore... Puisqu'il est clair, les décisions du conseil de sécurité s'imposent aux États membres, pourquoi la résolution 2773 n'est pas encore exécutée à ce jour, même lorsqu'on nous parle des opérations conjointes? Je salue l'intervention de l'honorable Kasekwa. Comment allons-nous faire ces opérations de désarmement de veuves de l'air lorsque les troupes gouvernementales ne peuvent pas accéder au territoire occupé par le M23 aujourd'hui et AFC? On nous parle de Doha. Qu'est-ce qu'il y a Doha? Doha ne pourra accoucher derrière si les Ouazalendo n'y sont pas. Vous allez voir, même l'accord n'a même pas intégré les Ouazalendo, qui sont des forces présentes. C'est l'émanation de Wakaaji, comme on les appelle en Swahili, donc des citoyens. Alors qu'à Doha, on devrait intégrer aussi les Ouazalendo, qui sont une forte présente. Les Ouazalendo sont des... Ils soutiennent le gouvernement, parce que le gouvernement défend la tête et nos ancêtres. Mais les Ouazalendo, les VDP, ne font pas partie des structures étatiques.
Voilà. S'il faut revenir sur ces rapports, on sait que ces rapports sortent, n'est-ce pas, dans un contexte de normalisation avec les Rwandais à travers cet accord de paix qui a été signé à Washington entre les Rwandais et la RDC. Est-ce que ces rapports ne va-t-il pas embarrasser les États-Unis qui pilotent justement ces négociations entre la RDC et le Rwanda?
Au contraire, cela devrait pousser aux États-Unis d'aller plus loin, puisque lorsque les rapports même aujourd'hui parlent et même fustigent même les rôles observateurs complaisants joués par la MONUSCO, puisque la MONUSCO c'est la force des métiers des Nations Unies, comment on pouvait la ville de Goma pouvait tomber le 27 janvier alors que la MONUSCO était présente.
Mais le travail qui est fait, c'est un travail des experts des Nations Unies, n'est-ce pas?
Mais c'est ça que j'ai dit, ce sont les experts des Nations Unies qui ont aussi condamné les rôles joués par la MONUSCO. C'est comme ça que nous disons que ce sont des experts indépendants lorsqu'ils critiquent même la structure qui les a financés. Nous pensons que ces rapports devraient aujourd'hui nous amener à pouvoir d'abord, avant toute opération, puisque le fait qu'on a signé un accord de paix ne signifie pas que c'est une blanchisserie, qu'on a donné les cartes blanches. Et il faudrait que les sanctions puissent être observées et
s'exécuter. Puisque s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas aujourd'hui de personnalités qui seront ciblées demain, de personnes qui vont payer, cet accord de paix n'aura pas de sens. Puisqu'aujourd'hui, on vous parle de millions de citoyens qui ont été aujourd'hui violentés. Quel est l'avenir de ces gens-là? Même, on parle ici de 6 000. Non, moi je vous dis, nous avons des documents. C'est 7 000 hommes que le Rwanda a déployés chez nous. Et aucun n'est rentré au Rwanda, ils sont encore là.
Voilà, vous parlez de 7 000 hommes, les rapports parlent d'environ 6 000 soldats.
Je vous dis, je suis un homme du terrain. Je suis un homme du terrain, je vous parle de 7 000 hommes qui sont présents jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi le Rwanda a refusé de lever ses mesures défensives?
Voilà.
Puisque si les mesures défensives étaient levées aujourd'hui, il n'y aura plus de AFC, il n'y aura plus de M23.
Ce qui était jusque-là un secret des polichinelles, vous l'avez dit, hein, et aujourd'hui, n'est-ce pas, révélé dans un rapport des Nations Unies, rendu officiellement public. Alors, face à cela, que devrait faire le gouvernement congolais? Comment nous, on devait réagir face à de telles révélations?
D'abord, on a donné raison au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais devrait aujourd'hui, puisque nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons aussi une voix comme les autres huit pays membres, notamment les cinq permanents. Nous devons nous amener ces rapports, puisque le problème c'est quoi? Il y a eu plusieurs rapports qui ont été oubliés des aspects, mais aucun rapport n'a jamais été examiné au sérieux. Nous pensons qu'avec la présence de la RDC comme membre du Conseil de sécurité, ce rapport sera examiné et que des sanctions sévères seront prises à l'égard de toutes ces personnes qui ont été citées. Et surtout aujourd'hui, on doit quand même penser à la réparation des victimes. Puisque c'est la communauté internationale qui les a mis à la merci. De ces violences, il faut que quelque part, quelqu'un puisse payer de ces violences qui ont été bien documentées dans ces rapports.
Merci. Achille Kapanga, avocat, vous êtes analyste indépendant, expert dans les domaines de la sécurité. Quel lecture vous faites de ces rapports des experts des Nations Unies?
Merci. Je viens de suivre les deux co-débatteurs. Chacun a donné ces réflexions. Moi, je pense que il faut savoir que chaque chose arrive en son temps. Chaque chose en son temps, on l'a toujours dit ainsi. Aujourd'hui, le rapport est là, dans un contexte particulier et spécial. Pourquoi? Puisque il y a les accords qui ont été signés au niveau des Nations Unies, au niveau des États-Unis plutôt. Mais la question s'est posée celle-ci. Est-ce que les Congolais ont le même langage par rapport à la situation de leur pays? Si nous, à Kinshasa, on peut se réjouir de ce rapport, on est content puisqu'on a condamné, on a fait ressortir tout ce qu'on pouvait ressortir. Ceux qui sont de l'autre côté jouent quelle carte par rapport à ce même rapport?
De l'autre côté, c'est-à-dire?
Là, je vois Goma. Les Congolais qui sont à Goma, à Bukavu, ils sont là, Nanga et consorts. Par rapport à ce même rapport, quelle est leur attitude? Est-ce que les Congolais ne sont pas en train d'avancer et se tirer derrière? Donc, nous voulons avancer, mais nous-mêmes, nous commençons encore à nous tirer derrière. Ça, c'est un défi. Pourquoi? Parce que je dis ça. Si aujourd'hui, le Rwanda a réussi à faire tout ce que ce rapport fait ce tour aujourd'hui, c'est grâce à l'appui des citoyens congolais. Ceux qui ont accepté de travailler avec Kagame sont là. Ce sont eux qui ont facilité à Kagame cet état de choses. Voilà, moi j'ai toujours dit que nous les Congolais, c'est bon de nous réjouir, de condamner, c'est bon. Mais nous avons un problème. Devant une situation tragique, là où le pays est à danger, on n'a pas le même langage. C'est comme si dans un foyer, ou dans une maison, un serpent est entré, le papa veut tuer le serpent, et madame veut faire foutre le serpent. Comment vous allez attraper ce serpent-là? Et c'est la même situation que nous avons aujourd'hui. On a fini aux États-Unis, avec les accords, mais on nous parle encore de droits. Les mêmes Congolais. On a fini avec Kagame, probablement, apparemment, aux États-Unis. Mais nous-mêmes Congolais, nous sommes à droit. Nous voulons amener les pays où? Et nous sommes là, chaque fois en train de condamner. On ne nous assiste pas, on ne nous amène pas ceci. Non. Moi, je pense que nous devons quand même être responsables. Ces rapports peuvent tout ressortir. C'est bon. Comme on l'a dit, ils ont fait ci. Là, on ne refuse pas. Mais je vous dis, qui entretient ça à Goma? Est-ce que vous avez vu Kagame un jour quitter Kigali venir travailler à Goma? Kagame quitter Kigali aller travailler à Bukavu? Non, c'est nous-mêmes les Congolais. Donc, si
nous sommes en train de rester la porte d'entrée de notre propre malheur. On sortira mille et mille rapports, il n'y aura rien. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ce qui est important pour moi dans ce rapport, c'est quoi? Un, comme nous sommes à procès contre le Rwanda, au niveau d'Arusha, c'est l'occasion d'avoir d'autres preuves matérielles qui vont permettre à nos avocats de bien défendre la cause de la RDC. Cette fois-ci, les preuves sont là, irréfutables, qui sont attestées par les experts des Nations Unies. Donc, pour nous, moi, en tant qu'avocat, en tant qu'expert, c'est déjà un élément de preuve matérielle qui va faire asseoir...
Qui seront naturellement contestés par les Rwanda.
Notre défense.
Des preuves qui seront contestées naturellement par les Rwanda, n'est-ce pas?
Et de deux, comme nous sommes aujourd'hui même membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est aussi l'occasion pour nous de nous approprier ce rapport-là pour faire parler ce rapport afin que les autres membres du Conseil de sécurité, et comme cette fois-ci les États-Unis ont déjà les yeux ouverts sur notre pays, qu'on puisse s'approprier ça, comme on a signé les accords devant le monde entier. Tout le monde a vu maintenant aujourd'hui que le Congo et le Rwanda ont accepté la paix. Voilà pourquoi ces rapports-là, c'est une marchandise politique et diplomatique pour nous, afin qu'on puisse faire prévaloir ça et montrer à la face du monde que voilà là où nous sommes.
Voilà, ces rapports disent que les RDF auraient établi un quartier général à Gisenyi, ville frontalière d'Espagne de Goma, avec pour objectif, non pas la neutralisation des FDLR, mais la conquête des territoires. Alors, avec ces révélations, les prétextes qu'a toujours utilisé le Rwanda au sujet des FDLR, qu'est-ce qu'il devient, à votre avis?
Bon, vous savez...
Parce qu'ici, on dit ils se sont déployés, pas pour combattre les FDLR, mais plutôt pour occuper les territoires.
Je dois vous révéler une chose. Vous savez, quand on a pris Goma, il y a des bruits qui couraient que Mangoula allait devenir gouverneur. Mais il y a un gouverneur qui est venu, vous regardez le répertoire des 10 fils d'Orkivu, il n'y est même pas. C'est lui qu'on a mis gouverneur d'Orkivu. Ça montre qu'il y a un projet. Quand ils ont pris Goma, ils avaient la raison. Ils utilisent les Congolais. On vous utilise contre votre propre pays. Maintenant, quand peut-être c'est les morceaux de viande là, ils sont les premiers à sauter dessus. Ces gens ont déjà un plan de balkaniser notre pays. Et comme ils n'y parviennent pas, il faut même qu'ils commencent à mutuer, à exploiter. Ce qui sera exploitable et qu'ils exploitent le plus vite possible pour que la guerre paye, la guerre coûte. Ne pensez pas que ces armes-là que Kagame utilise et l'M23 à Goma sont des armes gratuites, non.
Les prétextes FDLR deviennent quoi? Après ces révélations.
Voilà. Ça, c'est un échappatoire. Parce que je l'avais dit un jour, même beaucoup d'hommes politiques de l'Est l'ont déjà dit. J'ai déjà suivi Julien, j'ai déjà suivi beaucoup de personnes en parler. Après 30 ans, quelqu'un qui avait peut-être 30, 40 ans, il serait où aujourd'hui? Et curieusement, la partie qui est prétendue toujours être le bastion des FLR, qui l'occupe aujourd'hui? On peut maintenant demander au même Rwanda, au même M23. Là où vous avez pu contrôler, vous avez neutralisé combien? Ce sont eux qui sont là. Ils peuvent même nous dire, depuis que nous sommes là, nous sommes à Rutshuru, à Masisi, partout, parce que c'est ça le bastion des FLR, nous avons pu peut-être neutraliser autant. Donc, moi, je pense qu'on doit cesser de jouer avec la RDC, on doit cesser de jouer avec le peuple congolais. Il est temps, comme je dis, chaque chose a son temps. Avec ces accords ici, nous devons voir maintenant comment aller très loin pour faire parvenir cette question du Rwanda et à mettre fin.
Et comment les organisations supranationales telles que l'ONU, l'Union africaine ou l'Union européenne peuvent exploiter les informations contenues dans ces documents?
Il faut que notre diplomatie agisse. C'est nous maintenant qui devons agir. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons nous approprier ces rapports. C'est un élément qui nous permet d'être efficaces, de faire parler de nous et de prouver que nous sommes victimes. Parce que quand tu dis que tu es victime, il faut amener les preuves. Cette fois-ci, les preuves sont là. C'est maintenant l'occasion. Là, je suis maintenant encouragé. La dame, l'infatigable, la ministre d'État aux Affaires étrangères.
Madame Kayikamba.
Voilà, avec le vice-ministre, bon, le ministre à l'intérim de la justice, de se mettre ensemble.
C'est Samuel Bemba.
Voilà, pour voir comment maintenant accélérer le processus pour faire parler ce rapport et permettre à ce que les sanctions commencent déjà à tomber. Et si les sanctions tombent, mais en dehors de l'accord, parce que ce n'est pas parce que nous avons signé avec vous un accord aujourd'hui que vous allez continuer à faire le mal et qu'on ne va pas vous sanctionner, non. Ça, c'est un élément qui va maintenant permettre aux décideurs du monde de voir comment sanctionner Kagame. Ce serait important.
Merci. On demande maintenant aux auditeurs qui sont en train d'appeler de pouvoir intervenir. Hein. Vous allez réagir, honorable Jean-Baptiste Kassé. Vous allez intervenir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, c'est Isidore Doudia.
C'est le méritocrate Isidore Dounia depuis la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu. Ce rapport biais qu'accabla sur les faux arrive trop tard, agit trop peu et protège trop de monde. Il documente l'inacceptable et ça les condamner avec la force nécessaire et risque de normaliser l'occupation militaire étrangère comme un fait accompli. Pour la République démocratique du Congo, c'est une double peine, être agresseur et devoir prouver sa légitimité à se défendre. Mon analyse soulève deux questions. Quelles seront les conséquences diplomatiques et sécuritaires de la confirmation de l'implication directe du Rwanda dans les conflits à l'est de la RDC? Quelle réponse la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l'Union africaine, va-t-elle apporter face à cette ingérence documentée dans un conflit armé par un État membre? Merci.
Honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Isidore pose des questions pertinentes. Quelles conséquences diplomatiques? Normalement, ces rapports devaient justifier les retours à la résolution 2773 pour exiger que la toute première étape de la mise en œuvre de l'accord de Washington soit le retrait total des troupes rwandaises, parce que cela est désormais établi. Mais également, cela devait impliquer que des enquêtes sérieuses soient menées pour que le Rwanda soit sanctionné, non seulement pour agression, mais également pour crime de guerre comme crime contre l'humanité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les Rutshuru, ce qui se passe dans la cité de Sake, ce qui s'est passé hier à Nyabiondo, où les éléments du M23 tirent à bout portant sur un citoyen en présence des enfants, des mamans, des exécutions sommaires, ce qui se passe à Goma. Malheureusement, les comités d'enquête qui devaient être déployés dans les zones sous occupation ne vont pas être déployés au motif qu'ils ne bénéficient pas de financement. Voilà là où je dénonce effectivement l'hypocrisie diplomatique. Quelle réponse la communauté internationale devait apporter? Quelle réponse a-t-on apporté au rapport Mapping Guy, qui reste lettre morte, avec des preuves accablantes? Docteur Denis Mukwege a fait son cheval de bataille jusqu'à ce jour. Rien du tout. Mais par contre, si, de notre côté comme pays, nous pouvons cesser désormais la complaisance dans la composition des équipes de négociation. Quelles sont les personnes qui seront envoyées au mécanisme conjoint de coordination de la lutte de sécurité? Parce que l'analyse du contenu de l'accord du 27 juin 2027 à Washington démontre que Kinshasa a à nouveau envoyé des cousins, des membres de famille qui n'ont pas la maîtrise de la question. Comment comprendre que...
Vous tirez ça d'où?
Je tire ça d'où?
Ouais.
Le 31 octobre 2024, Guy, les concepts, le plan harmonisé de neutralisation des FDLR était déjà signé entre Kinshasa et Kigali. Les données ont évolué et les rapports démontrent que 27 janvier, Goma tombe sous ordre de Kagame. Le 16 février, après le 14, c'est Kavumu et Bukavu. L'armée rwandaise se déploie partout, mais on envoie à Washington des gens qui partent signer l'accord du 27 juin sur base du concept opérationnel du 31 octobre 2024. C'est-à-dire l'accord est à 6 mois de retard de la réalité des données du terrain et ils viennent accepter que la première étape de la mise en œuvre va consister à la neutralisation des FDLR qui sont censés se retrouver dans une zone déjà occupé par l'armée rwandaise. C'est la preuve que ces gens-là, comme ils le disent souvent, ils voient la guerre à la télévision, ils voient la guerre à 2000 kilomètres, ils ne savent pas où se retrouve Walikale. Lorsque le Rwanda dit...
Est-ce que les choses n'ont pas évolué justement avec la chute de Goma et de Bukavu?
Bien entendu, les choses ont complètement évolué. Nous ne devrions plus fonder l'accord du 27 juin sur... Le plan harmonisé signé le 31 octobre 2024, 6 mois avant, les données ont changé. Mais lorsque vous lisez l'accord, vous avez posé la question à l'un de mes co-débatteurs,
Que devienne la question FDLR? Le rapport le dit clairement. Ce n'est pas pour la neutralisation des FDLR que le quartier général de l'armée rwandaise est établi à Gisenyi. Ce n'est pas pour la traque des FDLR que l'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont battues à Kisangani en 2000. Non. C'est pour le contrôle des minéraux, c'est pour autre chose. Mais l'accord ici, du 27 juin, a pour objet principal la neutralisation des FDLR. Lorsque vous voyez les deux annexes des accords, le premier annexe, c'est les CONOPS du 31. Deuxième annexe, c'est le mécanisme conjoint de coordination de la lutte de sécurité pour la mise en œuvre des CONOPS. Que devienne cette question? Cette question-ci, aujourd'hui, doit conduire à des enquêtes sérieuses, parce que le Rwanda dit que, désormais, FDLR, toute personne porteuse de l'idéologie génocidaire. Mais comment vous allez combattre une idéologie par des opérations militaires? Quelles sont les garanties que nous prenons pour que le Rwanda ne se mette pas à assimiler les compatriotes hutus congolais parce qu'ils parlent les Kinyarwanda et que le Rwanda les annexe tous, les qualifie indistinctement d'affiliés associés aux FDLR? Et il y a des crimes qui se commettent dans les buitos sur nos compatriotes. À ça que vous avez suivi des images aujourd'hui à Kitoukou, des papas venir de Minova de Sake, emportés parce que on prétend que parmi eux, il y aurait des collabos de Ouattalendo. Bref, le Rwanda fait de l'amalgame et malheureusement, Kinshasa tombe dans ce piège. J'estime que si nous envoyons des experts sérieux, la première étape de la mise en œuvre de l'accord de Washington devait consister à l'examen de ces rapports et nous ne devrions pas signer l'accord économique prévu dans 3 mois tant que le Rwanda ne retire ses troupes. Nous ne devrions pas donner nos minéraux parce que jusque-là, je me pose la question de savoir qui devait récompenser Trump. En réalité, c'est le Rwanda qui a gagné 80% à cet accord et qui devait donner ses minéraux à Trump. Si Washington veut réellement accéder aux minéraux congolais de bonne foi, le Washington devrait d'abord reconnaître que le Rwanda est un pays agresseur, demander qu'il y ait un équilibre qui soit rétabli, parce que lorsque vous lisez l'accord, il y a un déséquilibre d'obligation. On oblige la RDC à négocier avec l'M23, on n'oblige pas le Rwanda à négocier avec l'FDLR, on oblige le Rwanda à la RDC à neutraliser les FDLR. On n'oblige pas le Rwanda à neutraliser l'M23, mais par contre, tous les deux pays s'engagent à soutenir l'M23 aux négociations de Doha, alors que l'M23 n'était pas accepté aux négociations de Nairobi. Aujourd'hui, ce sont les Ouazalendo qui étaient admis au processus de Nairobi qui sont exclus, et l'M23 qui n'était pas exclu, il est admis à droit, à titre exclusif. Donc, il y a des contradictions et nous devons nous remobiliser. Mettre des intelligences, des personnes qui maîtrisent des questions dans le mécanisme conjoint de coordination pour que, comme préalable à la signature du prochain accord d'intégration, les États-Unis et tous les pays partenaires reconnaissent d'abord l'agression dont notre pays est victime et qu'on revienne à la mise en œuvre de la résolution 2773.
Quelle marge de manœuvre a la RDC, aurait la RDC pour imposer cela quand on sait que les rapports de force sur le terrain n'est pas en faveur de la RDC?
Alors, le rapport de force de la RDC peut se reconstituer par une communion entre les gouvernants et la population. C'est là que la population doit s'approprier la question aujourd'hui. On voit bien que sur le front diplomatique, la RDC a capitulé à Washington et va davantage capituler à Doha parce que la stratégie du M23 aujourd'hui, c'est déployer des renforts vers Uvira, vers Walikale, vers Lubero, prendre une ville en Butembo ou Uvira pour imposer qu'à Doha, Kinshasa accepte le principe de l'intégration sans condition pour présenter un cahier de charges inacceptable et donc au plan militaire, on a vu les limites du pouvoir en place. au plan diplomatique, les limites sont là. Mais la population peut encore s'élever pour organiser des manifestations pacifiques. Pas du genre des brutalités de janvier où les gens se sont permis d'aller énerver la communauté internationale par des actes de vandalisme contre les ambassades. Non, ces gens-là qui ont fait ça,
par des
ils n'ont pas aidé la République. Mais il est possible que la population s'exprime de manière pacifique, de manière ordonnée, pour dire que ces rapports ne doivent pas rester lettre morte comme le rapport Mapping, et que le Rwanda doit être sévèrement sanctionné plutôt que d'être récompensé dans une formule de congestion de nos ressources.
Merci, honorable Willy Michiki. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle une fois de plus, qui nous appelle aussi de Bukavu, c'est Jules Maguené.
Je suis Jules Maguené depuis la ville de Bukavu. Depuis longtemps, il est établi que le Rwanda est derrière l'AFCM 23 et a joué un rôle prépondérant pour la chute de Bukavu et de Goma. Les révélations contenues dans les nouveaux rapports des experts de l'ONU ne devraient en aucun cas affaiblir les efforts du gouvernement congolais. Bien au contraire, elles devraient servir de levier stratégique pour riposter de manière concrète aux agressions de ses voisins. Tant que le gouvernement congolais se contentera de s'appuyer sur des rapports sans opposer une réponse ferme et structurée à son agresseur, il mettra une grave erreur d'analyse et de gouvernance. Je pense que l'heure n'est plus aux accusations sporadiques ni aux indignations diplomatiques sans effet. L'heure est à l'action sur terrain et bien entendu à la démonstration des forces sur tous les plans.
Honorable Willy Michiki.
Oui, je partage l'intervention de M. Jules Maguené et je dois le rassurer cet auditeur que le gouvernement de la République n'a pas croisé les bras. Ce n'est pas puisque nous avons signé l'accord de paix de Washington, donc on ne fait plus rien. La preuve, pas plus tard qu'il y a 48 heures, un avion suspect avait violé l'intégrité de notre territoire et un avion non immatriculé dans les sites Kivu, au-dessus du territoire de Fizi, nous étions obligés de les neutraliser pour dire que nous ne croisons pas les bras. Je voudrais ici quand même soulever une préoccupation, puisque lorsque nous regardons même les rapports, j'ai dit les rapports étaient complets, puisque les rapports ne s'est pas attaqué aux auteurs intellectuels de la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Les gens comme les Kabila ont joué un rôle important. Ils ne sont pas cités, les Nyarugabo.
Est-ce que vous avez les preuves, hein? Vous savez,
nous avons des preuves.
Citer les noms des personnes qui ne sont pas là pour se défendre.
Justement, nous avons des preuves, voilà. Monsieur, nous avons des preuves, puisque lui-même aujourd'hui, il est là sur le terrain, donc c'est déjà une preuve, et il ne se cache pas, même des gens qui ont été arrêtés ici, même son envoyé spécial qu'il a envoyé aux États-Unis a dit que le combat de Kabila était le combat de M23, donc il n'y a pas de secret. Donc, moi je voudrais ici dire que le gouvernement de la République a gagné. Le gouvernement, contrairement à ce que mon collègue Balaté a dit aujourd'hui, nous n'avons pas capitulé. Au contraire, c'est une bataille diplomatique que nous avons gagnée à Washington, puisque les Rwandais ont toujours nié d'avoir des troupes en RDC. Mais à travers cet accord, le Rwanda a reconnu, même s'il a parlé de forces défensives d'usuasion, mais le Rwanda a reconnu. Maintenant, lorsqu'on va...
Il faut maintenant capitaliser cette victoire diplomatique.
Tout à fait, c'est à nous de capitaliser ça. Donc, moi je pense que c'est à nous qu'on...
On a commencé à la capitaliser.
Nous avons déjà commencé à la capitaliser, bravo.
À travers quelles actions?
Nous devons d'abord sensibiliser nos concitoyens pour que nous puissions nous approprier cet accord. Vous savez, les Américains ne feront rien s'il n'y a pas une forte mobilisation. Mais lorsque déjà nous avons des compatriotes qui déjà sèment les doutes sur la réussite de cet accord, ça pose déjà un problème. Moi, je pense que nous avons gagné et que cet accord, déjà, c'est la première bataille, non seulement diplomatique, mais aussi une véritable bataille de guerre que nous avons gagnée. Puisque aujourd'hui, par exemple, l'ennemi, il est en difficulté. Lorsque nous regardons même au niveau. Je prends un exemple simple. On a suivi les représentants du M23 AFC en Belgique, M. Jean-Jacques Mamba. Il le fait seulement d'apprendre que le ministre d'État intérimaire Samuel Mbemba Kabuya assume l'intérim. Ils ont peur puisque ce monsieur vient de gagner pour la première fois en procédure la plainte portée contre les Rwandais au conseil à la cour de East African Community, là où on a déclaré notre plainte fondée et recevable. Et on sent aujourd'hui que lorsqu'aussi il a dit, je félicitais le ministre d'État Ahi et Kabuya, lorsqu'il a dit que non, la cohésion nationale, le dialogue ne doit pas exclure les droits aux réparations des victimes. Nous avons des victimes aujourd'hui. Et on avait comme impression qu'il fallait laisser les politiciens, c'est la coulée douce, puisque nous voulons la paix. Non. Et c'est ça en fait, qui dérange. C'est comme ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je vais lui rassurer que nous continuerons toujours à mener les actions défensives sur le terrain et que la République ne baissera pas. Il peut compter sur nous, et la preuve qu'aujourd'hui, au contraire, nous avons même renforcé la sécurité dans la partie orientale. Nous n'allons pas se fermer les yeux puisqu'il y a un accord de paix, et nous disons que nous allons collaborer pour que cet accord de paix soit une réussite pour nous.
Merci. Maître Kachid Kapanga, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville d'Uvira au sud Kivu.
Amani Kassali, depuis la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. À mon avis, ce rapport serait un outil ici des différentes enquêtes menées par cette organisation qui a toujours été prudente. Je ne vois pas en quoi les experts de l'ONU, dotés de hautes capacités professionnelles, des moyens financiers, des moyens matériels, pourront se donner le luxe de faire un rapport qui ne reflète pas la vérité. En réalité, le Rwanda lui-même s'est rendu coupable du fait que la guerre qui est sur terrain, c'est entre la RDC et les M23. Une guerre n'a jamais été proclamée entre la RDC et le Rwanda. Comment le Rwanda a signé l'accord de paix alors que ce n'est pas lui qui agresse le Congo? Donc le fait que le Rwanda a signé cet accord en place du M23 serait accepté tacitement tout ce que l'on pourra lui taxer derrière les M23. Le monde entier attend les actions pratiques infligées au Rwanda, dont son soutien a permis au M23 de commettre de graves violations des droits humains.
Maître Achille Kapanga.
Moi, je pense que l'auditeur a dit ce qu'on a déjà dit ici, monsieur Amani, je le salue, Amani Kassali. Mais moi, je pense que je dois lui répondre deux mots. Vous savez, les réalités internationales sont un peu complexes. La RDC a beaucoup crié, a beaucoup démontré qu'il n'y avait pas l'M23, mais c'est le Rwanda qui était en train d'agir derrière certaines personnes. Ça a été prouvé. L'aspect le plus important de tout ça, c'est lequel, M. Guy? Je demandais au gouvernement de s'approprier ce rapport, de voir comment le faire vendre au niveau des différentes institutions qui peuvent avoir des sanctions ou qui peuvent financer certaines sanctions contre les Rwandais. Parce que quand les Rwandais vont sentir que les sanctions sont en train d'arriver, ils vont aussi sentir qu'il y a déjà du poids. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont ils se jouent avec l'RDC va changer. On va maintenant commencer à créer d'autres alibis, mais finalement, les Rwandais vont se fatiguer. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce que nos politiciens congolais doivent comprendre, une seule chose. Nous devons cesser de faire du peuple congolais des marchandises politiques. Chaque fois, tout le monde dit, je le fais au nom du peuple. Je le fais au nom du peuple. On ne fait que vendre le nom du peuple. Le peuple est devenu une marchandise politique. Donc, vous mettez ça dans les sacs, vous jetez ça dans la voiture, pour que vous puissiez gagner ce que vous voulez gagner. Voilà pourquoi j'en appelle le peuple congolais à une prise de conscience, à quitter l'ignorance, et surtout à quitter la naïveté. Puisqu'on nous exploite, nous, le peuple congolais. Nous devons savoir dire non à certaines mauvaises choses. Quelqu'un qui a volé hier des millions, il vient devant vous, vous commencez à l'applaudir. Vous ne savez pas étudier, vous ne savez pas manger, vous n'avez pas de route, puisque ce monsieur a volé des millions. Donc vous êtes la première personne à l'applaudir. Nous devons quitter ça. Aussi, on dit que le peuple congolais demeure dans l'ignorance et continuer à applaudir les gens qui le font souffrir.
rassurez-vous que rien ne changera dans ce pays. Donc, la prise de conscience, d'abord, au niveau du peuple, au niveau des autorités, qui décide de ce pays.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission, on va donc conclure. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition La Mouka, vous êtes également notable du Nord Kivu. Après la publication de ces rapports, comment la communauté internationale, tout en soutenant, n'est-ce pas, les processus de Washington, peut agir de manière à décourager l'impunité dans la région des Grands Lacs?
Première chose, M. Boulos a dit que les États-Unis vont fournir aux deux parties tout le soutien nécessaire pour neutraliser les FDLR. Si nécessaire, le tout premier soutien à apporter consiste à sanctionner le Rwanda pour agression de la RDC sur base de ses rapports des experts. Deuxième élément, la communauté internationale et même le pouvoir à place doit comprendre l'urgence de la cohésion nationale. L'agression est établie, mais la communauté internationale traîne les pas. Il est possible que si nous actionnons le levier de la cohésion nationale, il est possible que nous gagnions les résultats de 2013 où nous avons réussi à diviser l'M23 à l'époque. Mamadou Bahouma a conduit l'armée à la victoire, mais en même temps, malgré tout ce que l'on peut dire de lui, Joseph Kabila a organisé ce qu'il a appelé les concertations nationales ici. Nous étions en désaccord avec ces concertations, mais aujourd'hui, il est possible qu'avec le pacte social porté par les évêques et ces 5 ans, on construise la cohésion nationale. Cette cohésion va consister, va nous aider à contrebalancer le déséquilibre diplomatique et le déséquilibre militaire par les fronts politiques. Et cette cohésion nationale est indispensable parce que si Tshisekedi et Kagame continue à se limiter dans des négociations entre les belligérants, comme ils l'ont fait à Washington et à Doha, les résolutions impopulaires qui vont sortir de ces négociations exclusives, nous n'allons pas les accepter. Elles vont se retourner contre les signataires et on va retourner dans le chaos. Il est important que même la communauté internationale comprenne la nécessité d'un consensus interne. De cette manière-là, nous pouvons capitaliser l'accord de Washington, mais également capitaliser tous ces rapports. Mais en même temps, j'invite les organisations de la société civile à s'approprier ces rapports, à s'approprier l'accord de Washington, de même que la résolution 2773, pour recommencer une lutte citoyenne, malgré le fait que, contrairement à la lutte que menait Laurent Désiré Kabila, qui soutenait les activistes de la société civile qui ayant fui les zones occupées, aujourd'hui Tshisekedi les abandonne totalement. On préfère détourner des millions alors que tous ces activistes des droits de l'homme sont abandonnés, de même tous les déplacés. On peut voler 19 millions sans se soucier d'envoyer à Butembo, à Uvira, merci, des médicaments ou de quoi. Donc, nous devons combattre l'indifférence caractérielle des dirigeants à Kinshasa qui, en réalité,
merci,
affichent des attitudes d'après lesquelles,
merci,
ils voient la guerre à la télévision.
Merci, honorable Willy Michiki Bouini, député national élu de Walika, le Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Est-il possible ou sera-t-il possible d'initier des sanctions contre le Rwanda quand on sait qu'on est dans un processus de normalisation avec justement les mêmes Rwandais?
Oui, d'abord, bon, je déplore d'abord la distribution discriminatoire de la parole, puisque mon collègue Kasekwa a eu plus de paroles que moi, mais c'est pas
grave. Non, mais on vous laisse parler, hein, quand vous arrêtez, voilà. Bon, on constate que vous avez fini de parler.
Alors, je voudrais dire ici que l'accord suspensionné, l'accord de paix suspensionné, n'est pas un chèque en blanc donné au Rwanda ou à qui que ce soit. Et que nous pensons que la pression doit être exercée. Nous devons profiter de ce rapport qui sera soumis au Conseil de sécurité en examen, puisque nous-mêmes, nous sommes membres, pour que des sanctions soient prises, non seulement contre les Rwandais, mais contre aussi tous ces acteurs qui, aujourd'hui, ont semé la désolation. Et ça sera même les gages de la bonne exécution de cet accord. Puisque s'il n'y a pas sanction, s'il n'y a pas pression, je vous dis, on connaîtra l'essor des rapports précédents. C'est pourquoi nous passons à ce qui nous concerne, que les cartes doivent être jouées au niveau du Conseil de sécurité. Nous sommes membres non permanents, mais nous avons une voix comme les États-Unis, comme les autres membres, seulement que les 5 membres permanents ont seulement les droits de veto. Donc, je crois que nous devons profiter de cette occasion. C'est vraiment la bonne occasion qui nous est offerte pour la première fois obtenir 2 sanctions, non seulement aux dirigeants, le plus haut dirigeant rwandais, mais aussi aux compatriotes vassaux patins qui ont fait l'élite de la rébellion des agresseurs dans notre pays.
Merci, Maître Achille Kapanga, avocat, vous êtes analyste indépendant, expert dans les domaines de la sécurité. À quoi peut-on s'attendre après la publication de ce rapport? À quoi peut-on s'attendre de la part, n'est-ce pas, des puissances qui soutiennent la normalisation avec le Rwanda, notamment les États-Unis et le Qatar?
Brièvement, je pense que c'est déjà un outil important pour l'RDC, dans sa diplomatie, dans toutes les actions que l'RDC veut mener dans cet état de choses. Voilà pourquoi ce qui est important, c'est quoi? C'est la capitalisation de ces rapports-là. La capitalisation n'est pas de plusieurs facteurs. Je vais y aller très vite. Le premier facteur, d'abord, les choix des acteurs politiques. La plupart des fois, on peut avoir un bon rapport, mais quand il y a des gens qui ne sont pas capables de vendre ce rapport, de le défendre, ça n'ira pas. Donc le chef de l'État doit choisir les personnes, comme on avait peut-être apprécié son choix par rapport à la dame, la ministre des Affaires étrangères, qu'il y ait des experts pareils, des gens qui aiment les pays, des gens qui ne peuvent pas trahir la RDC. Ça, c'est le premier aspect. Et de deux, il faut que la question du Rwanda contre la RDC qui est au niveau de la Cour à Tanzanie puisse avoir ça comme soubassement, afin que ça puisse donner l'occasion à cette Cour-là de condamner le Rwanda. Parce qu'une fois le Rwanda sera sous condamnation, sous le coup de condamnation, comme l'Ouganda, ça va aussi affaiblir le Rwanda. Donc nous devons jouer toutes les cartes par rapport à ce rapport-là pour affaiblir l'adversaire. C'est déjà un moyen qu'on donne pour affaiblir l'adversaire, donc nous devons exploiter le sens-là. Maintenant, pour terminer, il y a un contexte particulier qu'on a parlé de Ouazalendo et consorts. Là, je voulais vraiment insister. Je pense qu'il est grand temps pour le gouvernement de donner le moyen à la RAD. Parce qu'il y a une confusion entre réservistes et Ouazalendo. Je pense que la RAD doit bien jouer son rôle avec le général Padir pour qu'on puisse former les réservistes. Là, il n'y aura plus de confusion entre Ouazalendo et réservistes. La loi est déjà là pour les réservistes. Les Ouazalendo n'ont pas de loi, mais c'est la loi pour les réservistes. C'est là l'aspect important, M. Guimati.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Honorable Jean-Baptiste Mouine de Kasekwa, honorable Willy Michiki Bouini et Maître Achille Kapanga. Merci également à Billy Landry Betou et Alain Ngoï qui était à la technique, ainsi qu'à Benjamin Moudoumbi qui a réalisé cette émission. Et à la présentation, Guy Maté, merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Okapi.